Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Juste un mot sur la difficulté qu'ont les magasins, les entreprises à se procurer du matériel. C'est une période majeure là, pour les ventes. Période de Noël, les gens achètent. Et c'est pas parce que les gens veulent pas acheter, c'est que les conteneurs sont bloqués, ça on le sait depuis longtemps, d'être capable de mettre la main. Il y a des entreprises, il y a des magasins qui attendent du stock depuis longtemps. Et je prends juste l'exemple ce matin de la grève aux entrepôts de la Société des alcools du Québec. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de fumée blanche, il n'y a rien, pas d'écho, pas plus du côté des CPE, alors qu'en principe, on se parle. Et deuxièmement, il y a quand même des mandats de grève générale illimités qui sont dans l'air. Mais il y a des importateurs de vin qui commandent, et c'est une stratégie là, qui est quand même importante là, sur une période de temps. Puis là, tu dis, OK, Noël arrive, je commande du champagne, je vais en vendre dans les restaurants, je vais en vendre à la Société des alcools, merveilleux. Là, pas capable de te faire livrer. En plus, problème aux entrepôts à cause de la grève. Et là, tu te retrouves avec quelques centaines de bouteilles que normalement tu aurais vendues facilement durant la période des fêtes et qui seront livrées peut-être en janvier. Période moins intéressante. Alors, quand vous regardez actuellement cette conjoncture, il y a beaucoup de commerces, puis il y a des propriétaires, là, notamment des chaînes et tout ça, ou des gens qui travaillent dans des entreprises où il y a beaucoup d'achats en ligne, qui m'écrivent et qui me disent, il y en a qui vont être déçus, là. On est à un mois de Noël et on fait tout pour être capable d'avoir en stock puis de livrer le plus rapidement. Mais disons que c'est pas simple et c'est vrai pour un paquet de produits, un paquet de marchandises. Bon, 17 heures aujourd'hui, l'heure la plus cruciale que choisit le gouvernement pour annoncer des mesures les plus importantes. 13 heures, c'est une chose, 15 heures, c'est une chose, mais 17 heures, habituellement, le message est important. Alors, c'est le plan de vaccination pour les 5 à 11 ans. Ça va commencer, en tout cas, dans les prochains jours, là, selon le scénario établi par Québec. Et c'est dans les écoles que les enfants vont pouvoir se faire vacciner. Il y a également dans les centres de vaccination, je le disais hier, les parents vont pouvoir faire vacciner tous leurs enfants en même temps. Là, tu n'as pas besoin de prendre trois rendez-vous. En tout cas, on aura les détails aujourd'hui. Et conférence de presse, donc, à 13 heures. Et je vous dis, on a beau trouver que les stratèges en com sont pas pires, là, mais on annonce ça aujourd'hui alors qu'on a le rapport de la protectrice du citoyen sur les centres de soins de longue durée. Tu sais, la semaine passée, là, on était en pleine enquête du coroner. Et là, on arrive avec les histoires de hockey puis des Nordiques, puis on essaie de nous distraire avec ça. Là, comme parent, tu veux savoir ce qui arrive avec les enfants. Puis c'est la même journée que ce rapport-là est fondamental. Puis on va avoir des précisions, donc, sur ce qui est arrivé dans cette première vague. Et ce désastre, cette honte nationale, nos personnes âgées abandonnées puis qui sont décédées dans des conditions épouvantables. Tu peux te questionner un peu là-dessus. Puis on apprend avec cette nouvelle de Radio-Canada, c'est assez particulier ça aussi, les fameux rapports d'inspection. Là, on témoigne devant la coroner, puis on dit, ben on n'a pas ça. On a inspecté les établissements, personnel, équipement, conditions, l'état des lieux. Officiellement, on n'a pas l'information. Là, Radio-Canada nous dit que ces données ont été collectées et existent. Puis qu'on est capable de les récupérer. C'est pas ça qu'on a dit à la coroner. Et la coroner était elle-même étonnée en disant, si c'est pour être ça, je vais convoquer les inspecteurs pour qu'ils viennent nous dire ce qu'ils et elles ont vu dans les centres de soins de longue durée. Et on veut savoir qu'est-ce que les inspecteurs ont trouvé. Ça se peut pas là, que ça disparaisse comme ça. Alors, ce que Radio-Canada nous dit ce matin, c'est que l'information existe. Là, c'est au ministère à rendre ça public et à transmettre l'info à la coroner. Et puisqu'on parle de vaccination aussi, je regardais la situation en Europe. C'est très variable, mais je vais dire une chose. Là. D'abord, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont opposés aux nouvelles mesures sanitaires. L'Autriche, qui a une population d'à peu près 9 millions de personnes, joue dans le 14 000 cas par jour. Imaginez si on avait ça au Québec, là. Et il y a cette phrase très célèbre du ministre allemand de la Santé qui dit que d'ici la fin de l'hiver, tout le monde en Allemagne sera ou bien vacciné, ou en train de se remettre de la COVID, ou tout simplement décédé. Et il privilégie la voie de la vaccination, évidemment. Mais il y a donc des augmentations quand même de cas dans plusieurs pays. Et des protestations, Pays-Bas, Belgique, Danemark, pardon, Italie, en Suisse, en Croatie. Dans certains cas, les policiers ont utilisé les gaz lacrymogènes, les canons à eau. Et plusieurs pensent que la période fin décembre, période de Noël aussi, de rapprochement, de petits parties, puis de moyens parties, et les gens qui sont à l'intérieur, ben, on va se retrouver avec une vague assez forte au mois de janvier. Puis il y a cette préoccupation aussi de beaucoup d'experts au Québec. Certains pensent, par exemple, que c'était pas nécessaire d'enlever le masque au secondaire, qu'on aurait pu le maintenir. Et là, aujourd'hui, on parle de la vaccination pour les enfants, mais il y a d'autres mesures à venir plus tard pour ce qui est des fameuses rencontres familiales du temps des fêtes. On aura droit à combien de personnes à l'intérieur? Puis ça va être quoi les règles de santé publique pour cette période de festivité de fin d'année? Bon, revenons sur ce drame terrible au Wisconsin, alors qu'un individu a été formellement accusé, il s'appelle Daryl Brooks, 39 ans, pour avoir foncé sur la foule réunie dans les rues de cette petite municipalité de Waukesha, au Wisconsin, pour un défilé de Noël, pour de la fanfare, pour la joie, pour célébrer cette période de fin d'année. Donc, au total, 5 morts, 48 blessés. Beaucoup d'enfants sont hospitalisés, certains avec des traumatismes sérieux, fracture du crâne, fracture de la jambe. Et semble-t-il qu'un certain nombre de ces enfants sont considérés dans un état critique. Et on n'arrive pas encore à comprendre pourquoi ce gars-là a foncé. Et il n'y a aucun doute, là. Les images disponibles sur le web sont, je veux dire, tellement révélatrices, par même temps tellement horribles. Je vous invite pas à regarder ça, là. Mais j'entendais une avocate hier dire « C'est essentiel que des gens aient tourné ça parce que ça devient une preuve. » Et ce gars-là est un récidiviste. C'est un homme violent. Il n'y a pas si longtemps, il était arrêté pour avoir utilisé son véhicule, foncé en direction de la mère de son enfant dans un terrain de stationnement. Il l'a blessé. On l'a remis en liberté pour une caution de 1 000 $ seulement. Il a déjà utilisé de façon négligente et dangereuse une arme à feu. C'est quelqu'un qui est impliqué dans des histoires de voies de fait, de bagarres. Semble-t-il que juste avant qu'il fonce sur la foule, il avait été impliqué dans un autre incident. Ça ne donne pas l'impression de quelqu'un qui voulait agir par vengeance. Ce n'est pas un terroriste, il n'y a rien de ça. Mais on ne sait pas trop pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a décidé volontairement de tuer des gens avec son véhicule. Alors, on va en reparler plus tard avec Richard Châteauvert. Puis je ne sais pas si vous avez vu ces reportages sur les principales victimes qu'on appelle là-bas les « dancing grannies ». Puis c'est vraiment l'image de la petite ville américaine, 70 000, 80 000, puis les gens qui se ramassent par temps froid dans les rues. Puis c'est la fête de Noël, comme on voit des marchés de Noël à Montréal, comme on voit d'autres regroupements défilés du Père Noël. Et ces femmes-là, une de 79 ans, une de 71 ans et une autre de 52 ans, se présentent comme des grands-mères heureuses et ont développé une chorégraphie et une routine, donc, qu'elles peuvent faire dans les rues. Elles font ça, là, ce mouvement-là des grands-mères dansantes, le Dancing Grannies. Ça existe depuis les années 80. Bon, il y a eu cette publicité qui a fait jaser hier le mot québécois qui se traduit pas, d'après l'agence de publicité puis d'après le gouvernement. Alors, c'est une pub pour envoyer un message antiraciste, tolérance zéro. Et cette pub met en scène des gens qui sont issus de différentes communautés. Puis l'idée est très bonne, c'est de dire comment on appelle quelqu'un qui, je sais pas, vient de tel pays, puis vit à Montréal, puis est assis autour d'une table. Donc, on appelle ça des Québécois. Parfois en français, t'arrives avec la version anglaise, oups, ça accroche. On va reparler avec Bernard tantôt, le ministre Benoît Charrette aussi. Mais il semble que l'agence puis le gouvernement a dit, ben, Québécois puis Québécois, c'est pas la même chose. Sauf qu'en soirée, le ministre Charrette a reconnu que c'était peut-être pas l'idée du siècle. Et il y a des correctifs qui seront apportés. Mais on ne sait pas quoi exactement. Alors, on va lui parler tantôt. J'ai glissé un mot sur les CPE. J'ai beaucoup de parents qui m'écrivent. On parlait avec une mère tantôt, là. C'est sûr qu'il y a un courant de sympathie à l'endroit des éducatrices. Tu sais, les femmes, principalement, là, qui s'occupent des enfants, de vos enfants. On les aime, on les respecte, puis elles ne sont pas payées assez cher. Puis le gouvernement a une stratégie de négo en disant « On vous donne beaucoup de cash maintenant, puis on veut signer, mais les autres catégories d'employés, cuisiniers, administration, vous allez avoir les mêmes augmentations que les autres catégories d'employés dans l'univers public. » Les syndicats disent « Non, on est solidaires. » Avec la cuisinière, on est solidaire avec les gens de l'administration. Alors, face à ça, vous avez des parents, puis je le dis, là, l'exemple qui me vient tout le temps, c'est une mère, un père qui ont des enfants à l'école, oups, cas potentiel de COVID, oups, deux jours, trois jours de grève au CPE, puis là, t'es obligé de t'organiser, puis c'est pas tout le monde qui ont des grands-parents à proximité. Alors, entre-temps, c'est sur le plan logistique pour beaucoup de familles quelque chose d'extrêmement difficile. Un mot aussi, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps de cette fraude qui circule puis qui vous laisse comme impression que la GRC et la police est après vous pour des histoires de pédopornographie, de cyberprédation, de pédophilie, exhibitionnisme sur le web. Il y a Radio-Canada donc, qui a vérifié ce document-là, puis c'est une version, si on veut, d'un autre document qui a circulé en France. Puis tu sais, c'était là, on va venir vous arrêter, vous allez être accusé, ou bien vous payez tout de suite un montant prédéterminé. C'est évidemment une arnaque. Il n'y a personne qui va aller vous envoyer comme une mise en demeure dans cette... par courriel, là, pour une histoire de cette nature-là. Ça ne tient pas la route. Il y a Bernard Poulin, l'ex-patron du groupe SM, qui a avoué, selon les informations donc, de Radio-Canada, d'avoir été un joueur actif dans la collusion. Personne de surpris. C'était le groupe SM. Pour faire une histoire courte, il a plaidé non coupable aux criminels. Il y a eu arrêt des procédures. Mais il a reconnu devant l'Ordre des ingénieurs qu'il était un joueur actif. Bernard Poulin, il a à peu près tout fait ce qu'on pouvait faire dans l'univers de la corruption puis de la collusion. Du financement illégal, des soumissions de complaisance pour favoriser d'autres joueurs. Il était un joueur dans l'histoire des compteurs d'eau. Bref, c'est quelqu'un qui a profité puis avait les deux mains dans le sac de la collusion avec Bernard Trépanier puis toute cette gang-là là, dont on parle et que enquête ramène à la réalité. Et puis, la presse, ce matin, parle de plusieurs travailleurs agricoles étrangers qui trouvent que les conditions au Québec sont peu intéressantes. Il y a eu, évidemment, la saga de Maersk, là, mais semble-t-il qu'il y a plusieurs travailleurs qui tentent de traverser aux États-Unis, devenir des illégaux, mais ils se font dire que là-bas, les conditions de travail sont meilleures. Pas certain. Mais vous avez ce qu'on appelle des courtiers, là, des gens, des intermédiaires qui chargent des montants élevés pour les faire traverser. Puis vous avez ces gens-là qui travaillent des heures, qui viennent en Amérique du Nord, là, Canada, États-Unis, pour essayer d'améliorer leur sort puis d'aller chercher un revenu qui a de l'allure. Donc, vous avez beaucoup de commentaires de gens qui les encadrent, de syndicats qui les représentent, de groupes de pression, de réseaux d'aide qui disent que ils sont découragés D'un côté, de voir comment ça se passe sur certaines fermes au Québec, chez certains producteurs, puis en même temps, ben, ils se font vendre, disons, des paysages spectaculaires, des conditions de travail bien meilleures, puis vous allez voir, vous allez être bien, ça vous coûte 3-4 000, donnez-moi le cash, puis je vous fais traverser. Est-ce que c'est aussi beau que ça? On peut sans doute en douter, mais c'est une réalité. Ça veut dire peut-être mauvaise réputation pour certains producteurs ici. Puis encore là, ça s'ajoute aux difficultés de trouver de la main-d'œuvre.
L'essentiel de Paul Arcan.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Vous savez qu'il n'y a rien de pire que de se faire reprocher de dire une chose en français et de ne pas dire la même chose en anglais. Cette publicité dont on vient de parler avec Bernard a fait pas mal jaser hier, campagne publicitaire du gouvernement pour lutter contre le racisme. On écoute un court extrait, donc version française et version anglaise.
Au Québec, un groupe de jeunes noirs rassemblés dans un parc à la tombée de la nuit, on appelle ça des amis québécois.
In Quebec, a group of young black people gathered in a park at night are called friends.
Le ministre responsable de la lutte contre le racisme, Benoît Charrette, est avec nous. Monsieur Charrette, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Alors, on a compris hier soir là, que ça va être corrigé.
Oui, en fait, c'est une erreur d'évaluation là, qui a été faite au départ, une erreur d'évaluation de bonne foi. Naturellement, c'est une campagne que l'on veut inclusive. On veut certainement pas créer ou susciter de division à travers cette campagne-là. Donc, on a confirmé que la version anglophone est immédiatement retirée le temps que l'on puisse faire les ajustements là, nécessaires.
Pourriez-vous me donner un peu la genèse de cette publicité? C'est une idée de vous, de votre ministère, le bureau du PM. Ça part comment, cette idée-là?
C'est une recommandation du groupe d'action contre le racisme qui a été publiée là, en décembre dernier. On a 25 actions à mettre en place. C'est l'une d'entre elles. Et d'ailleurs, cette publicité-là, c'est un premier volet d'une campagne sociétale là, qui va s'étaler sur 3 ans. Donc, ce n'est pas que ça, la publicité là, qui sera mise en place. Donc, on venait réaliser là, tout simplement une des actions que l'on s'était engagé à mettre en place. C'est la toute première fois au Québec qu'on met une campagne de cette nature-là pour lutter contre le racisme. Donc, c'est une avancée là, qui nous permettra, je le souhaite sincèrement, de faire changer certaines mentalités okay. et certains comportements.
Cette publicité est passée entre les mains de combien de personnes pour approbation avant qu'elle soit diffusée?
Au départ, naturellement, il y a toujours des firmes de publicité là, qui sont mises de la partie. J'ai moi-même participé à un certain nombre de focus groups, de groupes témoins. Donc, je ne pourrais pas vous dire le nombre de personnes, mais elle a été validée. Et les groupes témoins étaient composés de personnes issues de la diversité. Et cet enjeu-là ne nous avait pas été soulevé. Donc, c'est une erreur d'évaluation, comme je vous disais, là, de bonne foi, mais ça enlève strictement rien au message que l'on souhaite passer.
Mais en fait, ma question, c'est qui a le mot final pour la pub? Qui décide, OK, on va en onde avec ça?
Naturellement, moi, je suis pas traducteur, je suis pas linguiste non plus, donc on se fie à nos experts. Donc, c'est la firme qui nous fait des recommandations. Ce sont les témoignages des groupes témoins. C'est ensuite l'approbation là au niveau du bureau coordonnateur de lutte au racisme. C'est également les communications du comité exécutif. Donc, il y a plusieurs étapes qui sont franchies. Et c'est une évaluation, malheureusement, là, qui n'a pas donné les fruits souhaités.
Mais,
pour
M. Jarrett, sérieusement, je peux pas croire qu'autant de personnes ont vu, ont réécouté, puis qu'il n'y a pas personne dans tout ce monde-là, là, vous incluant, qui a dit, coudonc, on dit Québécois en français, mais on dit friend en anglais, les gens vont mal le prendre. Il n'y a personne qui a soulevé un doute.
En fait, moi, je peux vous dire les échanges auxquels j'ai participé. Là, et comme je vous dis, moi, je ne suis ni traducteur ni linguiste, mais on me parlait d'erreurs lexicales, que c'est une traduction mot pour mot qui collait mal au sens que l'on donnait. Mais d'entrée de jeu, je le dis sans gêne, là, c'est une erreur d'évaluation qui a été faite de notre part. J'en prends entièrement la responsabilité, mais l'important, c'est le message. Et cette erreur-là a été mise en onde quelques heures seulement sur une campagne qui va, elle, s'étaler sur plusieurs mois. Donc, au final, on fait tout le nécessaire là, pour faire de cette campagne-là un succès et surtout contribuer à faire évoluer là, les mentalités.
Mais ça va être Québécois, c'est ça? Le friend devient Québécois?
En fait, la traduction exacte, là, je pourrais pas vous la confirmer ce matin, mais clairement, là, il y aura une correspondance avec la version francophone, mais je pourrais pas vous dire le libellé exact ce matin. Ce qui est important de rappeler, c'est que la version anglophone a été retirée des ondes pour être corrigée. Et elle sera de nouveau accessible là, à travers les médias. Là, on le souhaite le plus rapidement possible.
Parfait. Je voudrais vous entendre sur ce débat qui a commencé surtout la semaine dernière, là, puis qui a continué en fin de semaine au sujet de ces trois adolescents qui sont décédés. Thomas Trudel, Myriam Boudnaoui et Janaï Dopwell-Bailey. La famille du jeune Dopwell-Bailey trouve qu'on a comme l'indignation à deux niveaux au Québec. Quand c'est un jeune Québécois de souche, on a vu les politiciens, M. Legault est allé, Mme Plante est allée. Autrement dit, on n'a pas traité le dossier de la même façon. Vous en pensez quoi, vous, comme ministre responsable de la lutte contre le racisme?
Je vous avoue que je suis en désaccord avec l'interprétation que certains en font. Depuis quelques semaines, on parle beaucoup des armes à feu. Et d'ailleurs, une des jeunes filles qui a été malheureusement et tristement assassinée n'était pas, comme vous dites, une Québécoise de souche. Je déteste l'expression, là, je ne fais que reprendre vos mots. Donc, ce n'est pas une question d'origine.
Ben, c'est-à-dire, moi, j'utilise ce mot-là parce que les gens l'interprètent comme étant, quand c'est quelqu'un né ici ou qui est blanc, il y a une réaction peut-être plus viscérale des politiciens. Puis quand c'est quelqu'un venant issu d'une autre communauté ou né ailleurs, on n'a peut-être pas la même réaction médiatique et politique.
Je comprends. C'est certainement pas un reproche que je vous faisais. Je vous disais tout simplement que ma vision et celle du gouvernement, là, toute personne qui habite au Québec est un Québécois. Cela dit, pourquoi un traitement différent? Les causes sont tragiques dans chacun des cas. C'est une tristesse infinie. Bon, on parlait beaucoup du débat de la prolifération des armes à feu. Il y a un de ces jeunes enfants qui ne méritait certainement pas de mourir. Sa mort est une tragédie comme la mort de tout enfant. Cependant, c'était un autre type de décès, une autre.
Mais là, je sais pas ce que vous essayez de me dire. Je comprends pas trop, là.
C'est très, très simple. Le débat porte beaucoup ces jours-ci sur la prolifération des armes à feu et les tragédies que ça importe, donc, que ça implique. Donc, lorsqu'on a fait ces derniers jours cette commémoration, notamment pour le jeune Thomas, c'était une énième victime, jeune et innocente, de cette prolifération des armes à feu. Donc, c'est la raison pour
laquelle... OK, mais M. Charrette, est-ce que vous reconnaissez que la réaction, j'inclus médiatique, politique et médiatique, a été différente dans le cas de la mort de Thomas Trudel par rapport au jeune Dopwell-Bailey, par exemple?
Ce sont les circonstances du décès qui étaient différentes, mais ça ne rend pas la mort du jeune moins tragique et moins affligeante pour ses proches et pour sa famille, et qui d'ailleurs on transmet nos plus sincères condoléances. Donc, faut pas prêter des intentions là, qui ne sont pas là.
Mais en quoi vous dites, pourquoi la réaction est différente dans le cas des deux? Je comprends qu'il y en a un, on ne sait pas, je parle du jeune Thomas, on connaît pas le motif, on pense que c'est gratuit, il y a personne d'arrêté. Dans le cas du jeune Bailey, il y a eu maille à partir, il y a eu de la vengeance dans ça. C'est pour ça que vous faites une différence entre les deux décès? Un poignardé, l'autre tiré?
Pas du tout, encore une fois.
Mais je vous comprends pas, je m'excuse un matin. Honnêtement, j'essaie de comprendre ce que vous voulez me dire.
La mort du jeune Thomas s'inscrit dans le débat sur la prolifération des armes à feu. Donc, c'est un témoignage supplémentaire qui incite tout le monde, tous les paliers de gouvernement à en faire davantage pour lutter contre ce fléau-là. l'accessibilité à de jeunes personnes à des armes qui sont, on le voit bien, là, mortelles. Donc, c'est dans ce débat-là que sa mort s'inscrivait. Mais encore une fois, et moi-même comme parent, la mort de tout jeune est d'une tristesse infinie. Donc,
êtes-vous en train de me dire que si M. Bailey était décédé par balle, ça aurait été différent, la réaction du gouvernement aurait été différente?
Non, ce que je vous dis, c'est que lorsqu'il y a eu cette mort tragique, on était dans une séquence de plusieurs coups de feu, de plusieurs décès par arme à feu, donc ça devenait une occasion supplémentaire pour réitérer et s'engager dans l'action contre ce fléau-là qui en est un réel, là, qui a fait non seulement Montréal, mais plusieurs régions, plusieurs banlieues de la grande région de Montréal. Donc c'est un fléau réel qui nécessite une action concertée particulière, et le décès du jeune Thomas, malheureusement, est un triste rappel
M. Charrette, ouais, avec tout respect, là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous enliser, là, parce que j'imagine la famille Bailey qui entend ça, puis qui dit là, c'est des morts, c'est deux ados assassinés, un avec une arme blanche, l'autre avec une arme à feu. C'est pas le même contexte, c'est le débat sur les armes, la prolifération. Sérieusement, là, c'est dur à croire, là.
Moi, je réitère que la mort du jeune Bailey est tout aussi tragique. Les circonstances.
Mais elle n'a pas été tout aussi soulignée par le gouvernement, par les médias, que celle du jeune Thomas. Mais est-ce que vous reconnaissez ça?
Et là-dessus, je vous donne raison, mais pourquoi la mort du jeune Thomas a été davantage médiatisée? C'est qu'elle s'inscrit dans un contexte de prolifération de crimes par armes à feu. Mais je ne veux d'aucune façon laisser entendre que la mort du jeune Bailey nous affecte moins comme société, nous peine moins, nous trouble moins comme société. Les circonstances de son décès sont différentes. Dans le cas du jeune Thomas, c'était une énième victime de cette prolifération et de cette accessibilité aux armes à feu. Donc c'est un contexte qui est différent. Mais notre chagrin, notre peine pour les familles concernées sont du même ordre, très certainement.
OK. Merci, M. Charrette. Bonne journée.
Un plaisir.
Au revoir.
Bonne journée à vous.
Benoît Charrette est le ministre responsable de la lutte contre le racisme.
L'essentiel de Paul Arcan.
Grève dans les CPE, ça dépend évidemment de l'affiliation syndicale, mais dans beaucoup de cas, c'est la deuxième journée. Il y a une troisième qui est prévue demain. Il y aura aussi des votes de grève pour une grève générale illimitée. Pourquoi? Ben, si vous étiez là hier, vous l'avez entendu. D'un côté, Québec dit nous allons augmenter, et on a déjà passé par-dessus la tête des syndicats, de façon substantielle, la rémunération des éducatrices. Mais il n'est pas question d'accorder les mêmes hausses de salaire aux autres employés de CPE, c'est-à-dire employés, par exemple, à la cuisine, l'administration. Eux recevront des augmentations similaire à celle consentie par l'État à des catégories d'emplois semblables. C'est comme un spécial qu'on fait pour reconnaître quelles sont ces éducatrices sous-payées. Depuis le début, on le dit, les parents, de façon générale, sont assez solidaires. On avait un père hier matin. On a une mère qui est avec nous, on va l'appeler Julie. Elle a 5 garçons âgés entre 2 et 10 ans. Alors, il y en a à l'école, il y en a en CPE. Et elles doivent, ces familles-là, composer avec une logistique qui n'est pas facile. Julie, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Parlez-moi un peu de votre situation. Vous êtes tous les deux, donc, vous et votre conjoint, parents, puis vous êtes des travailleurs autonomes.
Exactement. On est travailleurs autonomes. On a une belle grande famille de 5 garçons. Je vous dirais que depuis la pandémie, c'est sûr que c'est difficile sur les finances. Là, quand les écoles ont fermé, les CPE, on a déjà eu un montant d'argent que c'est sûr un revenu qui était moindre parce qu'on ne pouvait plus travailler autant. Il fallait rester à la maison. Le télétravail, c'était pas super facile. Là, avec l'école à la distance, j'ai quand même 2 TDAH à la maison qui nécessitent beaucoup d'encadrement. Et les bébés, ben c'est sûr que c'est bruyant. Donc, on était 2 pour s'atteler à la tâche. On travaillait les soirs et les week-ends. Donc, c'est sûr que, bon, là, ça a été passé. Puis là, maintenant, la grève, ben je vous dirais que c'est assez intense de notre côté. C'est sûr que le contexte est spécial aussi. L'école de migrants a fermé pour des cas de COVID. Donc, ça fait déjà 3 semaines là, qu'on a les grands à la maison. Au début, c'était 1 classe, 2 classes. Puis après ça, c'était toute l'école qui était fermée. Donc, on faisait déjà l'école à la maison des trois grands. Et là, les grèves. Là, ça fait quand même plusieurs jours qu'on doit manquer du travail. Je vous dirais que ça commence à être extrêmement anxieux pour nous, là, parce que on sait pas comment qu'on va faire, ben, honnêtement, pour faire l'épicerie à la fin du mois. Parce que là, ça commence à faire beaucoup, plusieurs centaines de dollars qui partent. Le petit coussin, il est disparu. C'est sûr que l'hiver, avec cinq enfants, c'est cinq sauts d'hiver, cinq bottes, non. Plutôt 10 paires de mitaines.
Ouais. J'allais dire, Julie, ce que vous me décrivez, là, c'est cinq enfants. École fermée, COVID, grève, CPE. Bon, vous êtes, je pense, assez solidaire, là, puis vous me direz si c'est pas ça, là, des revendications des éducatrices qui s'occupent de vos enfants.
En fait, je suis super solidaire des éducatrices. Moi, je le fais pas, leur job, là. Je trouve qu'ils sont super bonnes. Mais moi, ce que je comprends pas en ce moment, c'est que je crois que les éducatrices, ceux qui ont un lien direct avec mes enfants, en ce moment, ils l'ont eu, leur augmentation. Je pense qu'ils sont rendus à près de 20% là, pour les temps pleins. Donc, je comprends pas pourquoi que, sans être pas solidaire à la cause, je suis solidaire à la cause. Mais là, je pense que les plus gros points ont été réglés. Je comprends pas pourquoi qu'on impacte encore les familles à la veille de Noël. Puis que là, nos portefeuilles, je suis pas la seule là, qui a beaucoup moins d'argent dans son compte de banque, moi aussi. Avec l'hiver puis Noël qui s'en vient, je comprends pas comment qu'on peut continuer à impacter autant les familles. Pour les plus gros points, ils ont été réglés, selon moi. Là.
OK. Le syndicat dit ben les autres catégories d'employés de CPE ont pas eu les mêmes augmentations. C'est une bataille de principes qu'ils tentent de faire, mais vous, vous nous mettez sur la place publique ce matin votre situation, puis vous êtes pas seul dans votre cas, c'est sûr. Là. Travailleur autonome, si tu travailles pas, tu gagnes pas un sou, là.
Tu gagnes pas un sou, non. Puis, tu sais, si t'es pas employé de l'État, là, ou avec, dans une grosse firme, t'as pas nécessairement des journées payées, des journées maladie, les banques de journées. Moi, j'en ai pas personnellement. Puis, j'ai plusieurs amis qui sont dans la même situation que moi, qui sont salariés, puis sont obligés de prendre congé. Bien, ils n'ont pas plus de sous dans leur compte de banque à la fin du mois, là, parce qu'il y a une grève, là.
Ça, c'est sûr. Puis, aujourd'hui, comment vous organisez? Tout le monde est à la maison. Est-ce que les plus vieux sont retournés à l'école, finalement,
là? Là, l'école a réouvert aujourd'hui, donc je suis chanceuse pour ça. Là, aujourd'hui, ben, c'est mon conjoint qui a pris congé avec les deux bébés. Donc là, on essaie de se relayer là, pour que on réussisse à faire nos contrats un petit peu chacun de notre côté. Mais non, c'est difficile.
C'est difficile. Oui, c'est important que votre message soit entendu.
Oui, parce que je ne sais pas si le gouvernement ou les gardiennes vont venir m'aider à mettre que mes enfants soient au chaud à la fin de l'hiver ou qu'ils aient tout mangé, là, mais là, ce mois-ci, je ne sais pas comment je vais arriver. Puis là, je suis vraiment anxieuse.
Bonne chance à vous. Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir. C'était Julie, mère de 5 enfants. 2 ans, 4 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Hier, c'est un employé donc de l'État. C'est vrai qu'on a des banques de congés puis qu'on est capable, même si on pige dans des vacances et tout ça, de s'organiser. Mais travailleurs autonomes, là. Puis imaginez les cinq, là. Puis en plus, COVID. C'est pour ça que souvent, je vous donne cet exemple très concret de famille où l'école ferme, la classe ferme. Puis là, la garderie, 3 jours. Puis OK, jeudi, vendredi, est-ce qu'on va avoir une grève générale illimitée? Pour bien des gens, là, c'est une perte de revenus direct. Puis t'as beau être solidaire puis comprendre leurs revendications, tu dis, en même temps, là, j'écope et j'écope sérieusement.
L'essentiel de Paul Arcan.
On va parler maintenant de ces saisies d'armes. On parlait avec le ministre Charrette tantôt, là, du fond de la question, les meurtres d'adolescents. Le SPVM qui a arrêté 14 suspects, il y a 15 armes à feu qui ont été saisies. Il y a donc eu une série d'opérations dans différents coins de la métropole. Je pense également sur la Rive-Sud. Vincent Richer est le directeur adjoint du SPVM. Monsieur Richer, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Pourriez-vous nous dire, en gros, le type d'armes que les policiers ont saisies?
Bien, il y a différents types d'armes qui ont été saisies. Il y a des armes longues et des armes de poing également qui ont été saisies. Il y a différentes munitions et des pièces d'armes aussi, ainsi qu'un silencieux artisanal.
Donc, là, je me trompe pas si je dis là, qu'on a affaire à des armes illégales. Ce n'est pas des armes achetées légalement, c'est vraiment des armes du marché noir.
On n'a pas fini l'analyse de ces armes à feu-là, mais effectivement, on se doute qu'il y a un mélange de types d'armes qui a été sur les lieux, mais la plupart sont sûrement des armes illégales.
Et ça arrive comment? Vous avez de l'info? Comment vous arrivez à trouver ces armes-là? Je veux pas des techniques d'enquête, là, mais juste pour dire aux auditeurs, comment vous êtes capable de mettre la main sur ces armes qui circulent?
Mais qu'est-ce qui est intéressant dans la série d'opérations qui ont été faites, c'est qu'il y a eu différents types d'interventions qui ont mené à la saisie de ces armes-là. Il y a eu des interpellations par nos patrouilleurs qui ont permis la saisie de certaines armes. Il y a des enquêtes de plus longue haleine. Puis il y a eu de l'information aussi qui a été transmise aux policiers qui a permis de faire des arrestations et des saisies. Donc, dans l'exemple qu'on a donné, il y a différents types de techniques qui ont été utilisées pour faire la saisie des armes à feu.
Les individus arrêtés sont-ils, est-ce que là-dedans des récidivistes, des gens qui ont un dossier justement pour possession d'armes illégales?
Bien, pour le moment, on est encore dans l'analyse. J'ai pas les informations sur tous ces individus-là ou s'ils sont reliés à des groupes criminalisés. Mais juste en faire l'analyse rapide, là, on voit bien qu'il y en a qui sont impliqués dans le trafic de stupéfiants, donc sans doute dans des groupes plus organisés. Puis il y a des jeunes aussi, il y a des jeunes de 16 ans qui ont été arrêtés dans ces événements-là.
16 ans?
Oui. Oui.
OK. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire, pas avec précision, mais de façon générale, ces armes-là, on les trouve où? Ça vient des États-Unis? On en fait nous-mêmes? Il y a des armuriers qui alimentent le marché? Puis pas strictement les armes saisies, là, les 15 dont on vient de parler, mais de façon générale, là, quelle lecture vous faites du marché noir des armes à Montréal?
Bien, en fait, c'est exactement ça. En fait, il y a une diversification de l'offre, si on veut, du type d'armes. Il y a des armes qui passent par la frontière. Il y a des vols d'armes à feu aussi. Il y en a qui sont des constructions artisanales. Puis ensuite de ça, c'est revendu sur le marché noir. Le prix des armes à feu, il a augmenté. Donc, ça devient un marché plus lucratif de vendre ces armes à feu-là. Donc, il y a vraiment une diversification, puis ça rend la chose plus facile de se procurer une arme à feu sur le marché noir.
Vous dites que les prix ont augmenté?
Oui, les prix ont augmenté, effectivement, pour les armes à feu. Donc, qu'est-ce qu'on évalue? C'est à peu près 5 000 $ le prix d'un arme à feu présentement sur le marché noir.
Attendez-le-vous, là. Une arme de poing se vend sur le marché noir 5 000?
C'est ce qu'on a comme information, effectivement. C'est le prix pour lequel s'est revendu un arme à feu sur le marché noir. C'est pour ça qu'on voit des armes qui transigent vers la frontière, qui remontent des États-Unis, puis c'est vendu sur le marché noir au Canada puis au Québec.
Je comprends qu'il y a plusieurs intermédiaires. Là. J'imagine qu'ils prennent une cote, là, le vendeur américain, puis celui qui passe l'arme, puis le grossiste, puis finalement la revente au détail.
Bien, effectivement. C'est comme, vous avez bien raison, c'est un type de marché où chaque intervenant va prendre une partie des profits, puis à la fin, ben, c'est le prix qui est vendu sur le terrain.
Dites-moi, question comme ça, comment un ado de 16 ans peut se procurer une arme si ça coûte aussi cher que ça?
Ben en fait, c'est souvent des activités criminelles, la fraude, la vente de stupéfiants, le proxénétisme, le lien avec des groupes criminalisés qui font en sorte que l'argent est disponible puis ils vont se procurer une arme à feu. Puis il y a une culture de violence qui s'est installée à travers les médias sociaux où les personnes vont se glorifier avec les armes à feu. Il va y avoir des gens qui vont se narguer. Alors, ça se passe beaucoup sur les médias sociaux, puis ensuite de ça, ben les comptes se règlent sur la rue avec des actes de violence.
Et le fait que les armes soient, même si c'est cher, facilement accessibles, ben comme on dit, la moindre coche qui pète, c'est pas juste une engueulade ou un coup de poing, c'est un coup de feu.
Exactement. C'est un cocktail qui est dangereux. C'est sûr que le service de police, ben on est une partie de la solution pour régler ce problème-là. Ça prend vraiment une concertation entre les différents intervenants. On a été voir qu'est-ce qui se passait ailleurs aussi dans d'autres villes, à Toronto, à Ottawa, par exemple. Puis les policiers là-bas nous disent que l'importance du lien entre les services de police puis la communauté, les familles doivent s'impliquer aussi dans la recherche de solutions. La présence policière sur le terrain, comme par exemple avec notre groupe Eclipse, et aussi une présence de policiers, plus de concertation. On a mis en place une nouvelle équipe de concertation communautaire. C'est des policiers à pied qui vont rencontrer les gens sur le terrain pour essayer de régler les problèmes en amont. Donc, ça prend l'implication de la communauté, des familles et des paliers de gouvernement, des organismes communautaires, puis de l'institutionnel également.
Non, non, mais c'est ça, que... M. Richer, c'est clair. Vous avez une job de police à faire, puis les citoyens veulent que la police fasse son travail. Puis en parallèle, il y a des initiatives qui doivent être prises justement pour soutenir des organismes communautaires, être présents, faire en sorte de... On donne souvent l'exemple du sport, là, mais il y en a d'autres pour sortir les jeunes de la rue, pour éviter qu'ils tombent justement dans un tel contexte. Dites-moi, avez-vous l'impression qu'il y a encore des membres du crime organisé, motards ou mafia ou autres crimes organisés, famille du crime organisé, qui traînent autour de ça, qui sont des joueurs là dans le marché noir des armes à feu?
Bien, le marché noir des armes à feu, effectivement, il y a sûrement de l'implication d'un niveau supérieur du crime organisé. Qu'est-ce qu'on constate dernièrement, c'est que la violence qu'on a dans nos rues, c'est plus lié aux groupes criminalisés de gangs de rue. Donc, ces personnes-là c'est plus impulsif, c'est moins organisé comme crime. Et comme je disais, ben quand on parle de quartier chaud à Montréal, c'est souvent la question qu'on a, c'est quoi le quartier le plus chaud à Montréal? Bien, le quartier le plus chaud à Montréal, c'est les réseaux sociaux. C'est vraiment dans ce contexte-là qu'il y a beaucoup d'activités qui se fait, mais d'un groupe de criminels qui est plus jeune. Donc, on doit adapter nos façons de faire à cette nouvelle réalité-là.
Merci, M. Richer. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Vincent Richer, le directeur adjoint du SPVM.
L'essentiel de Paul Arcan.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
17h, aujourd'hui, on va connaître la stratégie de Québec pour la vaccination des enfants. Ça pourrait commencer très rapidement dans les prochains jours. En parallèle, vous avez la troisième dose, la prise de rendez-vous. Puis quand vous regardez la situation en Europe, plusieurs pays qui sont aux prises avec des explosions de cas. On regarde l'Autriche, l'Allemagne. Il y a le ministre de la Santé en Allemagne qui a dit à la fin de l'hiver... Au final, il y aura les gens vaccinés, il y aura aussi des gens qui ont eu la COVID, qui ont survécu, puis tous ceux également qui en seront décédés. Alors, c'est un message assez percutant qui se résume en disant il faut aller vers la vaccination. En parallèle, le groupe de travail, les experts du groupe qui évalue cette pandémie depuis le début, qui dépose à intervalles réguliers un rapport, dresse quand même un certain nombre de constats sur ce que cette pandémie nous a permis d'apprendre puis des leçons à tirer dans l'éventualité d'une autre pandémie, que ce soit en termes de vaccination, de protection, de règles sanitaires. Docteur Joanne Liu est avec nous. Docteur Liu, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à maintenant de cette pandémie, là? Qu'est-ce que les experts retiennent pour se préparer, pour être mieux, armés la prochaine fois?
Mais qu'est-ce qu'on met en relief dans notre rapport? C'est le fait que, à venir jusqu'à date, parce qu'on a déposé un premier rapport à l'Assemblée mondiale de la santé au mois de mai 2021, c'était qu'on offrait un espèce de package de recommandations qu'il fallait toutes mettre ensemble. Et c'était la chose qui était très claire, c'était qu'on avait besoin de marier ensemble la volonté politique avec des gestes concrets et un financement conséquent, un OMS qui était pour avoir une autorité d'agir et d'être bien financé, et une répartition, on donnait une date limite de 1 milliard de vaccins vers les pays à bas et moyens revenus. Chose qu'en partie, plus de 90% de ce qu'on a nommé comme recommandation n'a pas été appliqué.
Par exemple, le fait que, si on parle des vaccins, prenons l'exemple des vaccins, ça veut dire que les pays les plus pauvres n'ont pas reçu le nombre de doses nécessaires. On a beaucoup vacciné au nord, mais peu au sud.
Exactement. Donc, si on regarde la photo globale, aujourd'hui, dans les pays à haut revenu, deux tiers des populations sont pleinement vaccinés. Dans les pays à faible revenu, c'est moins de 5 %, ça veut dire une personne sur 20 est vaccinée. Et ça veut dire aussi qu'il y a encore des travailleurs de la ligne de front, des travailleurs de la santé qui ne sont pas vaccinés dans des pays, notamment où la couverture est moins de 1 %. On parle de l'Ouganda, on parle de la Guinée-Bissau, du Yémen. Il y a toute une liste de pays où on a encore des gens très, très peu vaccinés.
Et est-ce que dans ces pays, à votre connaissance, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup d'éclosions?
Oui, il y a beaucoup de cas, mais aussi on n'a pas encore la photo globale parce que on n'a pas aussi accès au diagnostic de la COVID-19. Donc, on sait que les chiffres sont sous-estimés et donc on a une photo partielle présentement. Mais moi qui est allée en Afrique cet été, c'était très, très, très clair que on sous-évaluait les nombres parce qu'on n'avait pas les outils pour le faire.
OK. L'autre question, comment vous réagissez quand on a vu au Canada, là, c'est quoi, 1 million de doses qu'on a jetées pour toutes sortes de raisons? Et la réaction du Canada, ça a été de dire c'est inévitable, puis mais il faut pas que ça dépasse là, le fameux 5 %. D'un côté, ici, on jette, puis dans d'autres pays, on en a besoin.
Effectivement, puis je crois qu'il y a toujours une espèce de, je pourrais dire, de fraction qu'on peut pas compresser au niveau de perte. Mais il faut vraiment être très, très, très attentif parce que 1 million de vaccins, c'est vacciner plus de la moitié de certains pays. Donc, il faut vraiment en faire une attention particulière par rapport à ça parce que aujourd'hui, je trouve que c'est anormal et c'est scandaleux qu'on retourne ça du revers de la main comme si c'est un, comment dire, un fait qu'on doit accepter. Je crois qu'il faut faire un exercice, un effort pour éviter justement ces gaspillages-là. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on sait que le Canada a fait des achats en avance par rapport à certains vaccins, notamment Johnson & Johnson. On en a pour plus de 30 millions, puis AstraZeneca, on en a pour 22 millions. Donc, ça fait un total de 60 millions de ces vaccins-là. Et on sait que c'est pas les vaccins qui sont, comment on pourrait dire, les préférés des Canadiens. Et donc, ma demande et la demande de tous, c'est que si vous savez d'avance que vous avez des surplus, s'il vous plaît, les faire tout de suite redistribuer vers des pays qui n'ont pas accès à aucun vaccin.
Avez-vous l'impression qu'avec le recul de cette pandémie, la santé publique à travers le monde va obtenir l'attention des décideurs? Pour avoir parlé à plusieurs ici, là, souvent la santé publique, c'était pas une très grande préoccupation, des équipements de protection, des plans stratégiques existait, mais les ressources n'étaient pas adéquates. Autrement dit, qu'on s'en occupait pas trop, mais que là, la pandémie nous a mis une réalité dans la face. Et en plus, il faut se préparer non seulement pour celle-ci, là, mais la prochaine qui va venir un jour.
Effectivement. Je crois que je pourrais dire que dans le citoyen moyen, maintenant, les gens ont une idée de ce que ça veut dire la santé publique. Avant, je pense que personne ne pouvait définir ça il y a 20 mois. Donc, je pense que ça l'a vraiment apporté un éclairage nouveau. Cela dit, la semaine prochaine, on a l'Assemblée mondiale de la santé extraordinaire. On espère qu'ils vont être capables de s'entendre sur un traité sur les pandémies. Et ça, pour moi, c'est vraiment le vrai test de savoir est-ce que vraiment la santé publique a gagné des galons de reconnaissance par rapport à nos instances et plateformes mondiales. Et est-ce qu'on va vouloir financer correctement l'OMS pour qu'elle soit indépendante, qu'elle ait une certaine autorité? Et ça veut dire que quand on va avoir une maladie infectieuse émergente, l'OMS va avoir l'autorité de pouvoir aller évaluer avec ses équipes en personne ce qui se passe. Ça veut dire aussi qu'elle n'aura pas besoin de demander la permission pour pouvoir publier des chiffres et des constats sur certaines nouvelles maladies infectieuses. Chose qu'elle n'a pas encore l'autorité aujourd'hui.
Merci, Dr. Liu. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Dr. Joanne Liu, qui est médecin, vous la connaissez, qui a été présidente de l'organisme Médecins sans frontières et qui fait partie de ce groupe international indépendant qui examine justement l'évolution de la pandémie.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.